Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Le texte sur lequel nous arrêterons un instant ce matin est tiré de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Je lis les versets 14 à 24. Nous vous le recommandons, frères, avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers le monde. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable, pour le jour où viendra notre Seigneur, Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Les Thessaloniciens vivaient à Thessalonique. Dans cette métropole vivait une petite communauté chrétienne fondée par l'apôtre Paul au tout début de son ministère. Il y passa très peu de temps, quelques semaines, peut-être 3 semaines, disons 3 semaines, comme ça rend les choses un peu concrètes. Il arrive, il y passe 3 semaines et puis il repart. Mais en 3 semaines, il a eu le temps de prêcher et même de faire scandale, en particulier parmi la communauté juive. Un scandale convaincant toutefois, car parmi la population grecque majoritaire, certains ont trouvé la foi. Ils étaient probablement déjà considérés par les juifs comme des croyants de seconde zone. Mais leur situation devenait de plus en plus inconfortable. Leur nouvelle foi irritait les Juifs et leur nouveau style de vie étonnait leurs amis grecs qui ne les comprenaient plus. Ils s'étaient promis solennellement à Christ. Et les voilà en porte-à-faux avec leurs contemporains. Très concrètement, avec leurs voisins, avec leur famille, les critères de leur entourage ne pouvaient plus être les leurs. Et pourtant, ils exerçaient toujours une forte influence sur eux. Et donc, Paul, il sent que la foi, encore jeune et vacillante, va les encourager à persévérer. Dans sa lettre, la plus ancienne des épîtres pauliniennes, Paul ne tarit pas d'éloges sur la communauté et il l'exhorte à continuer dans cette voie. Thessalonique doit tenir. Face aux dangers du monde, il faut se protéger. Est-ce que cette vision de la foi nous parle aujourd'hui encore? Est-ce que nous vivons la foi chrétienne comme quelque chose qu'il faudrait défendre, qu'il faudrait protéger contre des dangers? Je laisse la question pour l'instant en suspens. Il faut comprendre, pour aller vers une réponse, que Paul s'inscrit dans une perspective messianique. Paul est influencé par sa culture, il a baigné dans la connaissance de ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il baigne encore dans le judaïsme contemporain de son époque, qui regorge de thèmes apocalyptiques. On peut noter par exemple l'utilisation d'un langage imagé que vous retrouverez si lisez les quelques chapitres que comporte cette épître, cet après-midi, ce que vous ne manquerez pas de faire, évidemment. On peut aussi noter la distinction marquée entre le temps présent et le temps à venir. C'est peut-être cette insistance sur le temps qui est la plus frappante. C'est que le phénomène messianique, qui dans une certaine mesure, et même une très large mesure, fait tenir les premières communautés chrétiennes, s'articule sur le phénomène de l'attente. Les premiers chrétiens sont chrétiens parce qu'ils sont persuadés que leur situation ne va pas durer indéfiniment. Ils attendent quelque chose. On peut même dire que l'exaspération de l'attente est la dimension essentielle de la conscience messianique. C'est le sens de la dernière phrase du texte. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit cette phrase aujourd'hui, on se doute que ce ne sera pas demain. Sans doute qu'à l'époque, ils n'en étaient pas si certains. L'attente messianique est en fait rien d'autre que l'expression ardente d'une communauté, ici Thessalonique, tournée tout entière vers l'avenir que lui réserve son Dieu, à une époque et dans un lieu précis. Dans l'Ancien Testament, à l'époque, il n'y a pas encore de Nouveau Testament, puisque Paul écrit la première lettre et que c'est l'écrit par les plus anciens, vous imaginez qu'il n'y a pas encore tout le reste. Donc, la référence, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Dieu qui sauve, c'est celui qui vient. L'action salvatrice est représentée comme une dynamique qui vient de l'extérieur et venir va de pair avec sauver. Parce que la détresse précédant l'événement est vécue justement comme l'absence de Dieu. Et les changements de comportement doivent être non seulement une réponse immédiate à la prophétie apocalyptique, mais ils doivent être maintenus. Et c'est le sens des commandements, on peut les appeler comme on veut, mais cette gentille exhortation, en fait, c'est un commandement à respecter la loi. La question qui se pose ici, c'est le problème de la durée de ce changement de comportement. Comment réussir à accomplir ce qui nous est demandé dans une tension telle provoquée par la prophétie apocalyptique? C'est le sociologue Émile Durkheim qui, dans un passage célèbre de sociologie et philosophie, nous apprend qu'il faut se rendre à l'évidence. Je cite, « L'illusion n'est jamais durable, parce que cette exaltation ne peut pas durer. Elle est trop épuisante. Une fois le moment critique passé, la tension se relâche. Les individus reviennent à leur quotidien ordinaire. Alors tout ce qui a été dit, fait, pensé pendant la période de tourmente ne survit plus que sous la forme du souvenir. Le messianisme, donc, serait une impasse. Parce que les changements qu'il provoque dans les mentalités et même dans les comportements ne sont pas appelés à durer. Ils sont condamnés à être éphémères parce qu'on ne peut pas toute sa vie vivre dans l'angoisse de l'urgence du retour de Jésus-Christ. Vous le savez. On ne peut pas vivre dans la crainte ou même dans l'attente en permanence. Le temps de l'Avent, pour ne prendre qu'un exemple, le temps de l'Avent ne dure pas toute l'année. Sa valeur même réside dans sa concentration, dans le fait qu'il s'agit d'un événement. Et sans doute, Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, pense-t-il lui aussi qu'il leur faut garder courage, mais que ce moment ne durera pas toujours? Sans doute lui-même devait tenir pour imminente la venue du Christ, la parousie. Est-ce que cette vision de la foi nous parle encore aujourd'hui? Alors moi je dirais oui, à trois égards. Vous choisissez l'égard qui vous convient. Je ne sais pas si ça se dit. On ne choisit pas un meilleur. Peut-être qu'on est un peu dans les trois, et peut-être que vous vous retrouverez plus précisément dans une des trois situations. Je dirais oui à trois égards, d'abord pour tous ceux qui vivent la foi comme une urgence. Et il ne faut pas les oublier. Nombre de chrétiens, aujourd'hui dans le monde, se reconnaissent dans la situation de ces premières communautés à la fois fragiles et ultra-confessantes, des individus, des familles, des paroisses, dont la spiritualité est imprégnée de l'idée d'urgence, pour lesquelles la manière de penser le temps est inséparable de la parousie, c'est-à-dire la venue du Christ que j'évoquais tout à l'heure. Je ne parle pas ici de chrétiens abstraits. On en connaît, j'en connais, vous en connaissez en fait beaucoup, il suffit de voyager un peu. Que l'on pense aux zèles contagieux des nouveaux convertis, ou à tous les chrétiens, et ils sont malheureusement nombreux aujourd'hui, pour qui la menace ou le danger sont une réalité quotidienne. On comprend que l'accent messianique de Paul résonne de manière autrement plus pertinente chez quelqu'un qui est menacé de mort pour sa foi que chez, par exemple, un bon luthérien alsacien, à la foi tranquillement sacramentel. Mais justement, ce texte n'insiste pas que sur l'urgence. Et l'appel messianique nous rappelle ce que la foi doit avoir comme conséquence sur des comportements. Avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, soyez toujours joyeux. Ainsi peut-il être une source d'encouragement pour tous ceux qui aiment insister sur l'action, sur l'engagement du chrétien au nom de son appartenance à Christ et tout ce qu'à ce titre il a déjà reçu. Les chrétiens, ici comme ailleurs, vivent leur foi beaucoup plus en termes de mission concrète que de contemplation et de passivité. D'autres textes pourront servir à tempérer cette inclinaison quand elle devient trop encombrante, quand elle devient une auto-justification. Le besoin d'un rappel de ce que Dieu attend de nous, soit quand nous sommes assez satisfaits de nous-mêmes, soit quand nous sommes dans le doute. Ce besoin est précieux. Et ce texte y répond. Quand on pense qu'on a fait assez, on lit Paul, on est moins certain. Quand on pense que Dieu n'attend rien de nous, on le relit, on est moins certain. Et puis, il y a une troisième piste. Pour ceux qui ne se retrouvent pas dans les deux premiers cas de figure, ceux qui ont la chance de ne pas devoir vivre leur foi comme une urgence, pressé par des événements extérieurs ou une pression intérieure, ceux qui ne se sentent pas particulièrement inactifs au point d'avoir besoin d'une piqûre de rappel, ou qui ont bonne conscience, et ceux qui ne doutent pas que Dieu attend quelque chose d'eux. Il y a une troisième catégorie. J'aime l'idée que Paul, en écrivant cette lettre, on l'a vu, circonstanciée, adressée, datée, ne se doutait pas qu'elle aurait un tel écho que nous la lisons encore aujourd'hui. J'aime l'idée plus largement que les chrétiens sont ceux qui ont réussi, peut-être malgré eux, le pari de tenir malgré les difficultés, c'est-à-dire malgré l'attente fébrile sans fin, malgré la perte de repères éthiques difficiles à imposer car ils ne vont pas de soi. J'aime l'idée que si le message de Paul était circonstancié, les chrétiens en ont fait un projet de vie. Et ce texte me parle aujourd'hui car il me redit dans des mots finalement assez simples ce que je crois. Non pas que pour être un bon chrétien, il faudrait se conduire de telle manière pendant encore quelques temps avant enfin d'en être récompensé, mais que par exemple, je me sens concerné par le monde qui m'entoure et engagé vis-à-vis des plus fragiles que je peux et que je veux appeler mes frères. Les paresseux, c'est un peu condescendant, Je suis sûr qu'on est tous le paresseux de quelqu'un. Les craintifs, les faibles. Je veux, dans les moments de tristesse, de maladie et de deuil, pouvoir dire ma peine, mais aussi pouvoir dire ma joie pour la vie offerte et témoigner devant les autres de la puissance de l'Esprit-Saint. Et la troisième idée que je retrouve dans ce texte, qui me parle aujourd'hui, pas seulement d'un messianisme du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est que je suis persuadé que le bonheur passe par la reconnaissance, et donc je veux dire merci, et je veux apprendre aux autres à dire merci. En fait, ce texte de Paul me parle de ce que la foi chrétienne a réussi à imprimer dans nos vies quotidiennes sans même que nous ne nous en rendions compte. Il nous en redit l'origine, les toutes premières formulations, et nous invite ce faisant à y prêter une attention renouvelée, car rien n'est acquis. Et vous sentez ce que ces trois idées ont de précaire, de fragile. L'attention aux plus petits, aux plus faibles, la capacité à dire sa joie dans la tristesse et la possibilité de dire merci en toutes circonstances. C'est peut-être ce qui caractérise ma foi au regard de ce texte ce matin, et c'est en tout cas, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, ce que j'aimerais vivre en communauté avec vous, chers frères et sœurs du Bouclier, et plus largement, chers frères et sœurs. Je forme le vœu que ceux d'entre nous qui vivent dans le doute ou dans l'urgence, et plus largement tous ceux qui cherchent la place qui leur est réservée, sauront être accueillis dans notre Église pour vivre, pour expérimenter concrètement ce que Paul décrit. C'est notre tâche, à chacune et à chacun. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.